Bonjour à chacun. Nous venons, il y a quelques jours, de fêter Noël. Nous l'avons encore un peu évoqué ce matin. Mais bientôt, nous nous apprêtons à passer à autre chose. Dans quelques jours, nous allons jeter le sapin qui commence à perdre ses épines. Et puis nous allons aussi ranger soigneusement la crèche dans une boîte jusqu'à l'année prochaine. Alors bien sûr, nous avons peut-être encore quelques cadeaux à faire aux uns ou aux autres, à ceux que nous n'avons pas encore vus depuis Noël. Mais bientôt, Noël sera derrière nous. Moi, ce matin, je vous invite aussi à tourner la page et à passer à autre chose. Nous allons tourner la page afin de voir Noël dans une autre perspective. Une autre perspective que simplement celle de l'enfant Jésus couché dans la crèche. À Noël, nous avons célébré la naissance de Jésus. Dieu est venu chercher l'homme pécheur. Et nous sommes réjouis pour cela. Plusieurs de nos prières d'action de grâce étaient dans ce sens. Et nous avons bien raison. Mais notre Dieu n'a pas toujours agi de cette manière. Dieu a également repoussé l'homme pécheur. Alors imaginez un peu qu'on vous chasse, que l'on vous renvoie, que l'on ferme à clé la porte derrière vous afin de vous empêcher de rentrer. La situation est douloureusement claire. On ne veut pas de vous. Eh bien, imaginez que quelque temps après, la même personne qui vous a chassé vienne vers vous, vous invite à venir, à vous rapprocher et à reconstruire la relation brisée. Dans une telle situation, on se pose bien des questions. Pourquoi ce changement ? Quelle doit être mon attitude ? C'est ce que nous allons voir un peu ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Ce matin, nous allons survoler beaucoup de textes, mais celui-ci va nous servir de point de départ. Genèse, chapitre 3, et je lirai à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce que l'homme avait péché contre lui, Dieu a chassé l'homme hors du cadre de vie que Dieu avait initialement prévu pour que les hommes vivent en communion avec lui. Dieu chasse l'homme hors du jardin d'Éden. Et en plus, Dieu interdit à l'homme pécheur de revenir et d'avoir accès à l'arbre de vie. L'homme pécheur est donc privé de la vie éternelle et devra connaître la mort. Voilà un épisode qui nous éclaire sur la personnalité de Dieu et sur sa relation avec nous. Mais bien sûr, il y a également Noël. Jésus est venu chercher et sauver l'homme pécheur et lui offrir la vie éternelle. Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu et chercher sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme également appelé le Fils de Dieu, est venu. Alors nous avons parfois une image très romantique, très naïve, très enfantine de Noël. Nous voyons un vulnérable et petit enfant couché dans une crèche. C'est juste de voir Noël comme cela, mais si c'est l'image principale que nous gardons de Noël, alors nous passons à côté d'une des plus extraordinaires révélations que Dieu ait jamais fait aux hommes. Il nous faut bien réaliser qui est véritablement Jésus pour mesurer en quoi il est étonnant que Jésus soit venu jusqu'à nous. Alors bien sûr, nous le savons, en tout cas je l'espère, Jésus c'est Dieu en personne. Dieu le Fils qui s'est fait homme. Philippiens 2:5, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dans la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Jésus qui est venu jusqu'à nous, c'est Dieu. À la fois pleinement homme, mais pleinement Dieu. Lorsque l'on pense à Jésus, et en particulier à Noël, on voit Jésus comme un petit homme, et même comme un petit enfant. Mais attention de ne jamais, jamais voir Jésus comme un petit Dieu. Même lorsqu'il était petit enfant, Jésus était le seul et véritable Dieu. Et pas un petit Dieu, le Dieu créateur et le Dieu tout-puissant. Colossiens 1,16. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Notre image de Jésus est déjà un peu plus précise. Jésus qui est venu jusqu'à nous, ce n'est pas un petit Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Mais il nous faut encore apporter un dernier éclairage sur Jésus. Parce que Jésus a dit en Jean 12,47, « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Nous tirons parfois rapidement la conclusion que Jésus ne jugera jamais personne et qu'il sauvera tout le monde. Mais c'est faux. Jésus est venu une première fois, humblement, pour nous sauver. Mais lorsque Jésus reviendra une nouvelle fois, et cette fois-ci dans la gloire, Jésus manifestera son jugement, et son jugement sera terrible. De Timothée 4:1, Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Et aussi, Hébreux 10:30, le Seigneur jugera son peuple. Écoutez bien, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant parce que notre Dieu est un Dieu terriblement redoutable, qui condamne le péché. Jésus qui est venu jusqu'à nous, c'est le Dieu tout-puissant, saint et redoutable. Nous voilà donc confrontés à cette étrange situation. Dieu est un Dieu saint, puissant et redoutable, qui chasse le pécheur et qui le prive de la vie éternelle. Mais Dieu vient aussi chercher l'homme pécheur afin de lui offrir la vie éternelle. Cela soulève deux questions. Y a-t-il une contradiction chez Dieu? Ou bien Dieu a-t-il changé d'attitude vis-à-vis de nous? Première question. Y a-t-il une contradiction chez Dieu ? ce que nous fêtons à Noël est-il en contradiction avec ce que nous lisons dans la Genèse? Si jamais Dieu se contredit, nous sommes en fâcheuse posture. Nous sommes confrontés à un Dieu qui est divisé, partagé, ou bien à un Dieu qui ne sait pas ce qu'il veut. Certains pensent qu'il y aurait, entre le Père et le Fils, une différence de volonté ou de point de vue. Que Dieu le Père serait le Dieu de la loi et de la condamnation du péché, alors que Dieu le Fils serait le Dieu de la grâce et du pardon des péchés. Mais c'est faux, c'est même une hérésie de croire que le Fils et le Père n'ont pas la même volonté. Il n'y a aucune différence de volonté ou de point de vue entre le Père et le Fils. L'œuvre de grâce accomplie par le Fils est exactement le reflet de la volonté du Père. Jean 6, 40. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le Fils et le Père connaissent une unité parfaite. En Jean 10, 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous ne sommes pas divisés. Moi et le Père, nous sommes un. » Lorsque Jésus fait les choses, il ne les fait pas en son nom propre seulement, mais il les fait également au nom de son Père et au nom de l'Esprit. Matthieu 28, 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il n'y a aucune contradiction chez Dieu, aucune contradiction entre les trois personnes de la Trinité. Il n'y a aucune contradiction chez Dieu, cela signifie que l'on peut apprendre à connaître Dieu. On peut apprendre à discerner sa volonté, et cela signifie également que sa parole est fiable, car la parole de Dieu ne se contredit pas, car Dieu ne se contredit pas. Alors cela nous amène à une deuxième question. Dieu a-t-il changé d'attitude vis-à-vis de nous? Puisqu'il n'y a pas de contradiction interne en Dieu, pour harmoniser les textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, certains pensent que Dieu a évolué et a changé avec le temps. Vous savez, humainement, c'est le cas. À 20 ans, un homme peut être plein de fougue, peut décider de changer le monde au travers de sa force. Et puis, cet homme fait des expériences, enrichit sa vision, et par la suite, il a profondément changé. À 20 ans, c'était un homme de guerre. À 40 ans, un homme de médiation. À 60 ans, un homme de paix. Certains pensent que Dieu fait ainsi. Au travers du temps, il évolue. Ils pensent que l'Ancien Testament, ça c'est le temps où Dieu était sanguinaire et terrible. C'est l'exigence de la loi, la condamnation et la mort. Mais voilà, heureusement, le temps passe, Dieu change et envoie Jésus. Et le Nouveau Testament, après la naissance de Jésus, serait le temps où Dieu est amour et paix. C'est la liberté en Christ, le pardon et la vie. Voilà ce qu'il pense. Si jamais ils avaient raison, si Dieu avait changé d'attitude vis-à-vis de nous, vis-à-vis des hommes pécheurs, notre sort ne serait pas enviable pour autant. Et oui, hier le cœur de Dieu aurait été disposé à nous chasser, à nous condamner. Aujourd'hui, le cœur de Dieu serait disposé à venir nous chercher, à nous sauver, à nous faire grâce. Mais demain, si Dieu changeait, quelle serait la disposition de Dieu vis-à-vis de nous demain? On l'ignore. Si Dieu était changeant, si les dispositions de Dieu vis-à-vis de l'homme évoluaient, alors nous n'aurions aucune sécurité en Dieu. Notre avenir ne serait pas entre ses sûres mains. Mais heureusement pour nous, Dieu ne change pas ses dispositions vis-à-vis de nous. Alors, il est vrai que dans la Bible, nous voyons que Dieu peut changer ses plans selon les actions des hommes. Mais en revanche, Dieu ne change jamais ses dispositions vis-à-vis de l'homme. Jacques 1,17 parle de la stabilité de Dieu, Dieu le Père. Le Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le Père ne change pas et ne varie pas, mais le Fils non plus. Hébreux 13,8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Dieu est tellement stable qu'une des images les plus utilisées dans la Bible pour le décrire, c'est le roc, le rocher. Notre Dieu est solide et stable comme un roc. Psaume 94,22, l'Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Dieu n'a pas évolué ou changé avec le temps. Notre Dieu est un Dieu solide, stable et immuable. Il n'y a donc aucune contradiction en Dieu. Il n'y a pas non plus de changement de disposition chez Dieu. Dieu est, était et sera toujours un Dieu saint, redoutable, qui chasse le péché. Dieu est le Seigneur qui règne sans partage, sans aucun partage et sans faire aucune concession sur sa création. Dieu est le Seigneur Tout-Puissant. Mais en même temps, notre Dieu est et a toujours été un Dieu qui va chercher l'homme pécheur et qui propose au pécheur de changer d'attitude et de revenir à lui. Dieu est le Sauveur. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, les deux en même temps. Notre Dieu est à la fois notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Luc 2,11, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce qui peut nous sembler être une contradiction s'harmonise à la croix. Jésus, en s'offrant en sacrifice, manifeste à la fois le Seigneur terrible qui condamne le péché. Jésus est mort à cause du péché. Mais le sacrifice de Jésus témoigne en même temps que Dieu est un Dieu de grâce qui nous sauve. Jésus est mort à cause de notre péché. Pas de son péché, de notre péché. De Corinthiens 5,21, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. À la croix, Dieu démontre qu'il est à la fois le Dieu saint, tout-puissant et redoutable, qui chasse et condamne le pécheur, et en même temps, à la croix, le Dieu de grâce qui vient chercher et sauver l'homme pécheur. Ce n'est donc pas Dieu qui change d'attitude vis-à-vis de nous, c'est l'homme pécheur qui doit changer son attitude vis-à-vis de Dieu afin de se mettre au bénéfice du sacrifice de Jésus. Dieu est stable et ne change pas d'attitude. La stabilité de Dieu se manifeste à la croix. Mais devant la croix, l'homme pécheur, lui, doit changer son attitude vis-à-vis de Dieu. Et ce changement d'attitude de l'homme pécheur doit prendre en compte deux aspects. Vivre avec Jésus comme sauveur, mais aussi vivre avec Jésus comme Seigneur. nous devons vivre avec Jésus comme sauveur. Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vivre avec Jésus comme mon sauveur, c'est me souvenir que c'est Dieu qui est venu jusqu'à moi. C'est Jésus qui a parcouru tout le chemin jusqu'à moi, tout le chemin qui me séparait de lui. Dieu me témoigne ainsi de son amour et également de sa volonté que nous soyons proches, puisque c'est lui-même qui vient jusqu'à moi. Si jamais j'accepte le salut que Dieu m'offre, car ce salut, nous pouvons le refuser. Mais si j'accepte ce salut, alors je peux avoir l'assurance que je suis pleinement sauvé. Je suis parfaitement sauvé, car ce salut ne dépend pas de moi, mais de Dieu qui me l'offre. Et Dieu peut m'offrir ce salut parce que c'est lui-même qui en a payé le prix. Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Jésus est venu me sauver. Quelle libération! On a entendu ce matin dans les prières parler de liberté. C'est véritablement ça. Quelle libération, quelle liberté nous avons auprès de Dieu. Nous sommes libérés de notre culpabilité, mais aussi du devoir de mériter notre salut. C'est Dieu qui a tout payé. Mais nous devons également vivre avec Jésus comme Seigneur. Vivre avec Jésus comme Seigneur, c'est vivre en compagnie du Dieu saint, puissant et redoutable, qui est venu jusqu'à nous pour nous chercher, nous qui étions loin de lui. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas simplement venu jusqu'à nous pour nous sauver, Jésus est venu jusqu'à nous pour nous chercher. Et quand vous allez chercher quelqu'un, quelle réaction attendez-vous de la personne que vous êtes venu chercher? Qu'elle vienne avec vous, qu'elle vous suive. Si jamais elle refuse de bouger, si elle refuse de vous suivre, si elle reste les deux pieds ancrés dans le sol, alors vous êtes venu la chercher pour rien et vous repartez tout seul. Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus est descendu jusqu'à nous pour nous chercher. Jésus attend une réponse de notre part. Il attend que nous nous levions pour le suivre. Et suivre Jésus, c'est marcher à sa suite. C'est chercher à lui ressembler, lui, le Dieu saint et redoutable, qui ne supporte pas la vue du péché. Marcher à la suite de Jésus, dans la voie de la sainteté, abandonner le péché n'est pas une option pour les chrétiens. C'est la conséquence de notre salut et de notre vie nouvelle en compagnie du Dieu saint. À tel point que celui qui ne cherche même pas à suivre Jésus, celui qui n'essaye pas de marcher à sa suite, doit se poser la question de savoir s'il a réellement rencontré ce Jésus qui est venu le chercher. 1 Jean 2, 7, celui qui prétend demeurer en lui, le Seigneur, il faut qu'il marche lui-même dans la voie où lui a marché. On appelle cela la sanctification. Mais je pense que cela fera l'objet d'un prochain message. En conclusion, nous venons de fêter la naissance de notre Sauveur. Et tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur personnel, peuvent se réjouir de ces saluts et de vivre maintenant dans la liberté. Dieu est un Dieu de grâce. D'ici quelques jours, nous rangerons soigneusement la crèche dans une boîte. que notre regard sur Noël ne s'arrête pas à l'enfant Jésus. Prenons garde de ne pas considérer Jésus comme un petit enfant. Alors on considère que Jésus est un petit enfant chaque fois que l'on pense que Dieu est là pour nous accompagner là où nous le voulons. Un petit enfant, on le prend par la main et on lui demande de nous suivre. C'est nous qui décidons. Mais Jésus, ce n'est pas un enfant. Jésus, c'est le Dieu saint, puissant et redoutable. Et c'est nous qui, par la foi, devenons enfants de Dieu. C'est à nous de nous lever et de suivre notre Dieu là où il désire nous conduire. Le Dieu tout-puissant, saint et redoutable est et sera toujours en lutte contre le péché et en particulier contre notre péché. Aussi heureusement que notre Dieu est en même temps de notre côté et qu'en lui nous sommes en sécurité, notre Dieu est prêt à nous encourager, à nous soutenir, à nous aider dans notre marche avec lui, à la condition que nous décidions de le suivre. Quel honneur et quel privilège! Nous avons entendu ce matin quelqu'un qui parlait de privilège. C'est un véritable privilège pour nous que de pouvoir vivre avec un tel Dieu. Répondons à son invitation et marchons à sa suite. Amen.